Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est l'émission Cinérama, une émission qui est consacrée évidemment au cinéma, avec de l'actualité autour des sorties, et pas seulement les sorties dans les salles, mais aussi les sorties sur les plateformes, et ce sera l'exemple tout trouvé avec Athéna, film de Romain Gavras qui fait polémique. Certains dans l'équipe ont apprécié ce film, et puis d'autres l'ont plutôt détesté. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Alors vous, ce sont des films en revanche actuellement dans les salles.
Moi je vais vous parler de Smile, de Parker Finn.
Et puis toi, tu reviens à tes amours
je reviens
du
comme
réalisateur coréen.
Comme à chaque cinérama, juste sous nos yeux, de Hong Sang-soo.
Quant à moi, je vous parlerai de Sans Filtre. Sans Filtre, c'est la dernière palme d'or du Festival de Cannes. Et ce sera l'occasion de jouer un blind test avec bien les films qui ont remporté la palme d'or. Voilà, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire dans cette émission. Mais on va commencer cette émission de cinérama avec les enfants des autres. Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle rencontre un homme qui a une fille de 4 ans. S'y attache, mais aimer les enfants des autres, eh bien, c'est un risque à prendre.
Non, mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
This is Cinerama.
C'est vrai, oui ou non?
Ah non, j'ai pas rempli le tableau, mais j'ai quelqu'un.
Une description?
Ah, 1m95.
Rachel est prof dans un lycée professionnel, elle a 40 ans, pas d'enfant, et elle rencontre Ali dont elle tombe amoureuse. Au bout de quelques temps, Rachel le sent, elle veut rencontrer la fille de Ali, issue d'une précédente union, Leïla, qui a à peine 5 ans. Avec Leïla, tout reste à construire, Rachel doit s'inventer cette nouvelle place si particulière, ce rôle de belle-mère, un rôle inédit pour elle, mais sur lequel repose la viabilité ou non de sa nouvelle relation amoureuse.
Je veux rencontrer Leïla.
C'est rien d'évident, tu sais. Les enfants des autres, parfois.
Comme le dit Rebecca Zlotowski elle-même, dont Les enfants des autres est le 5e film, elle avait jusqu'à présent orienté son cinéma vers le monde des hommes, que ce soit dans Belle Épine ou dans Grande Centrale. Et ici, elle s'autorise enfin à parler de maternité, d'intimité de femme. Le film a une réelle modernité dans sa façon de montrer les belles-mères. Et Dieu sait que depuis toujours, nous sommes poussés d'abord par les contes, puis par les dessins animés de Walt Disney, et enfin par les comédies américaines à diaboliser la figure de la belle-mère. Elle montre la belle-mère comme une figure simple et saine. Dans Les enfants des autres, en effet, tout semble très simple et très sain. Le personnage joué par Virginie Efira, qui n'a jamais eu d'enfant, semble aisément trouver les mots et les gestes justes avec la fille de son nouveau partenaire. Tout est presque trop facile. Le film s'attache aussi à montrer une sororité salvatrice, certes, mais peut-être un peu idéalisée aussi, entre mère et belle-mère, puisqu'entre Rachel et l'ancienne femme de son compagnon, interprétée par Chiara Mastroianni, il n'y a jamais de compétition, de méfiance ou de désaccord. Malgré un brutal retour à la réalité dans la dernière partie du film, on assiste pendant plus d'une heure à une parfaite harmonie entre la nouvelle mère, la mère, et la petite fille. Et comme chacun sait, les gens heureux n'ont pas d'histoire. C'est pourquoi nous, spectateurs, eh bien, nous nous demandons quand même longuement où la réalisatrice veut en venir avec cette vision angélique de la famille recomposée.
Bonjour. À quel âge, Leïla?
4 ans et demi.
Waouh. Ça te fait un petit bisou?
Ça va, mon cœur?
Oui.
Contrairement également à ce qu'on entend de la part de la réalisatrice au sujet de son film, qui brandit le fait de défendre le désir de non-maternité, eh bien le film s'avère quand même assez conservateur hein, sur ce sujet, montrant un personnage de femme de 40 ans qui a toujours été heureuse sans enfant, mais qui ne s'imagine pas ne pas en faire. Également un autre personnage de jeune femme qui prépare une thèse et qui tombe enceinte par accident, mais qui n'envisage même pas d'avorter pour privilégier son parcours professionnel et personnel. Et le film rappelle quand même plusieurs fois au travers des mots d'un gynécologue qu'il faut se dépêcher de faire des enfants avant 40 ans. Et puis Rebecca Zlotowski semble vouloir faire du Emmanuel Mouret, ce qui n'est pas un compliment dans ma bouche, accompagnant les déambulations de ses personnages dans Paris d'un air de clavecin très agaçant. Bref, Les enfants des autres, c'est un film maîtrisé, émouvant, bien écrit, mais assez conventionnel, qui ne vous marquera sans doute pas par son audace.
Les enfants des autres est en salle depuis le 21 septembre. Après avoir été témoin d'un incident traumatisant impliquant l'une de ses patientes, la vie de la psychiatre Rose Cotter tourne au cauchemar. Et c'est toi, Guillaume, qui nous raconte de quoi est fait ce film, Smile.
Pardonnez-moi, mais la situation est très délicate.
Cinérama.
Ce film est une catastrophe.
Paramount présente le bien nommé Smile de Parker Finn et, on l'aura compris dès l'annonce du titre, on se retrouve en face d'un film d'horreur s'inspirant grandement de la méthode Blumhouse, telle qu'elle a été exploitée par son producteur Jason Blum et distribuée par Universal dans les salles du monde entier. Alors pour rappel, Blumhouse, c'est la boîte derrière les American Nightmare, Insidious, etc. Blumhouse était plutôt sympa, hein, avait des productions pas prétentieuses et la plupart du temps assez divertissantes. Mais depuis que le studio s'est fait un devoir de devenir plus woke que votre petite sœur de 13 ans, il est en train de se faire doubler par d'autres qui composent, alors pas forcément de meilleurs films, mais tout du moins des films d'horreur plus horrifiques. Car s'il y a une chose qui fait plaisir dans Smile, et vous verrez que malheureusement il n'y en a pas beaucoup d'autres, c'est quand même le fait qu'on nous refile enfin un peu de barbac au moment concerné et surtout un croque-mitaine plutôt réussi, mais dont il faudra attendre patiemment la fin du métrage pour voir sa tronche de porte-bonheur.
Hier, une patiente que vous suiviez est morte de façon violente, sous vos yeux.
J'ai besoin de trouver une explication.
Une chose qui me sourit. Une chose qui me sourit.
Inspiré du court-métrage Laura Hasn't Slept, donc Laura n'a pas dormi, hein, du même réalisateur, Parker Finn, Smile entend explorer de façon plus étendue son idée de base, à savoir ce qu'il se passe si votre cerveau se retournait contre vous et vous plongeait dans un cauchemar sans fin, alors même que votre job est de tirer vos patients de leur névrose. Le film n'évite malheureusement pas l'écueil du court-métrage étiré en long-métrage et a bien du mal à étaler sur quasiment 120 pénibles minutes son propos qui aurait pu faire un film d'1h20 tout à fait potable, respectant ainsi le format classique d'une série B standard, genre auquel le film se raccroche évidemment. Mais de quoi est-il question dans Smile, si ce n'est qu'il n'a rien à voir avec Smiley Faces, hein, le film psychotronique de Greg Araki? Eh bien, c'est l'histoire de Rose, une jeune psychiatre qui tombe sur une patiente pas comme les autres. Celle-ci, frappée d'hystérie et victime de ce qui semble être un délire de persécution, change tout à coup de comportement. Elle sourit d'une façon particulièrement dérangeante à sa psy avant de s'ouvrir la gorge en taillant sa chair avec la forme d'un sourire. Alors qu'elle se remet de cette expérience plutôt traumatisante, Rose se rend compte qu'elle est poursuivie par une entité qui lui fait perdre petit à petit contrôle avec la réalité. Autour d'elle, des gens semblent lui sourire de la même façon que la défunte patiente, et tout cela semble s'acheminer vers une conclusion terrible. Alors que son fiancé n'y comprend rien, elle sollicite l'aide de son ex qui est toujours dans la police, et se rend compte qu'effectivement, la patiente défunte n'est qu'un pion dans une chaîne de suicide, et que Rose semble être la prochaine si elle est justement poussée à bout. Mais il est doublement difficile pour elle de ne pas sombrer dans la folie, puisqu'elle doit en même temps lutter contre des souvenirs d'enfance qui remontent à la surface et qui vont eux aussi lui mener la vie dure. À moins que ce soit encore une machination de l'entité qui la poursuit.
Il va mourir !
J'ai relevé 20 affaires impliquant 19 victimes directement reliées entre elles.
T'as parlé que de 19 victimes.
Pourquoi tous ceux qui l'ont vu sont morts et pas vous ?
Je l'ai vu aussi.
Pour la première fois dans le rôle principal, on découvre Susie Bacon, fille des acteurs Kevin Bacon et Kira Sedgwick, qui marche furieusement sur les traces de son illustre père, puisque celui-ci, rappelez-vous, a connu l'un de ses premiers titres de gloire en mourant d'une façon bien gore, hein, grâce au maquillage de Tom Savini dans le premier Vendredi 13 de Sean Cunningham en 1980. Et bien c'est bien frustrant de lui confier un tel rôle, hein, parce qu'il est bien difficile de ressentir de l'empathie pour un personnage certes traumatisé depuis l'enfance, mais tout le temps en train de chouiner, de se plaindre ou de fondre en larmes au moindre pet de mouche. Tenir 2 heures dans ces conditions est compliqué, surtout quand le body count, hein, commence à se réduire comme peau de chagrin. Alors il y a une malédiction à la ring, hein, où on se passe un mal probablement issu d'un traumatisme d'enfance qui se répand comme un virus et qui en règle générale, dès qu'il est contaminé en une semaine, ça implique aussi une part d'investigation qui se retrouve très 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 vite ennuyeuse, hein, tant on n'en a franchement rien à faire de comprendre qu'on assiste à une malédiction car on l'a compris dès les premières minutes et ensuite parce qu'on ne prend finalement même plus la peine de nous expliquer d'où elle vient aux 3/4 du film. Alors ça c'est un vrai problème. L'idée de la mêler avec le traumatisme d'enfance de Rose, celui-là même qui a défini pourquoi elle est devenue psy, était très intéressante mais brouille complètement des pistes franchement pas claires. Et se contenter d'une inversion, à savoir un sourire dans un moment dramatique ou des plans de caméra à l'envers, n'est pas suffisant pour nous sustenter. On note tout de même une, for- fort belle créature, comme je l'avais dit, assez effrayante à la fin, qui se transforme en véritable monstre bien horrible, comme on en voit finalement peu hein, dans le paysage actuel de l'horreur cinématographique. Alors un vrai bon point, peut-être le seul véritable du film, attribué au magicien Alec Guinness et Tom Woodruff Jr., équivaut à lui tout seul le petit détour dans les salles obscures.
Si vous aimez les monstres, vous pouvez aller voir Smile, c'est en salle depuis le 28 septembre. Trilogie sur une société de classe cultivant l'apparence et Palme d'Or 2022 au Festival de Cannes, c'est Sans filtre de Ruben Östlund.
Bah oui, c'est le film et le film est bien.
Cinérama.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Obtenir deux palmes d'or, coup sur coup, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein, et c'est pourtant ce qui est arrivé à Ruben Östlund. Sa première palme, il l'a eu avec l'excellence The Square en 2017. Et la deuxième avec Sans filtre en mai dernier. Alors si on veut aller plus loin, on peut même dire qu'il a eu trois prix coup sur coup à Cannes, hein, puisque Snow Therapy, en 2015, avait obtenu le prix du jury Un certain regard. Voilà, donc c'est une certitude hein, que le réalisateur suédois est le chouchou de Cannes, car quels que soient les jurés, eh bien, il obtient sa récompense. Le titre Sans filtre n'est pas le titre original, mais le titre français. Ailleurs, le film s'appelle Triangle of Sadness, soit le triangle de tristesse en français. Hein. Il s'agit d'une référence à l'industrie de la beauté qui intervient très tôt dans le film, alors qu'un des personnages principaux passe un casting. On lui demande de jouer avec cette petite ride qu'on a entre les sourcils. Pour le réalisateur, cela montre l'obsession de notre époque pour l'apparence au détriment du bien-être intérieur. Alors le thème de l'apparence était déjà l'objet de The Square, film dans lequel l'apparence était cette fois-ci en opposition avec le devoir moral ou la probité. Mais si dans The Square, le réalisateur suédois s'attaquait au monde surfait de l'art contemporain, il s'attache ici dans un premier temps à l'univers de la mode, nous offrant une première séquence dont rarement le cinéma est témoin, un couple de mannequins, lui un homme, elle une femme, alors lui l'homme il est beaucoup moins payé, et la femme donc elle est très bien payée en tant que mannequin, eh bien ils sont tous les deux au restaurant et il est question de savoir qui paye, pourquoi et comment. Alors c'est une belle entrée en matière pour un film qui va ensuite nous emmener dans un deuxième temps sur un bateau pour une croisière. Alors sur ce bateau s'affrontent différentes classes, il y a les riches passagers et ceux qui les servent, ainsi que le capitaine qui est plutôt marxiste hein, et qui est interprété par Woody Harrelson. Un personnage qui restera hors champ pendant de nombreuses séquences, qui se fait attendre et qui dès qu'il apparaît annonce le délitement. C'est la partie la plus comique du film car Sans filtre reste une comédie. Le burlesque est d'ailleurs de mise dans cette seconde partie du triptyque qui se termine dans une quasi-obscénité. Vient enfin la dernière partie que beaucoup n'auraient jamais aimé voir, hein, ça c'est vraiment l'avis des spectateurs que j'ai pu entendre. Pourtant, après la thèse et l'antithèse, eh bien, vient la synthèse, et celle-ci intervient sur une île déserte où l'ordre social qu'on a connu eh bien, n'est plus le même. Ceux qui servaient les riches passagers peuvent prendre le pouvoir car il n'y a plus personne pour les contraindre. Les dominants ne peuvent faire autrement qu'être dominés et certains s'en accommodent, tentant d'avoir les faveurs de ce nouvel ordre social. Fable morale et politique, comme l'était The Square hein, d'ailleurs, Sans filtre, est une critique ouverte de notre monde occidental de l'apparence. Ruben Östlund applique une mise en scène redoutable, multipliant les allusions et les bonnes idées pour appuyer son sujet, comme eh bien, des essuie-glaces qui vont et viennent durant un dialogue, ou des portes d'ascenseur qui s'ouvrent et se ferment. De même, le bateau de croisière va finir par tanguer dangereusement. Et puis, avant que l'ordre ne soit changé, les mouvements de va-et-vient sont le gimmick du film. On reproche à Östlund une posture un peu trop voyante hein, du film satirique, un film qui crache sur le système mais qui en est aussi la preuve quasiment existentielle à mesure que son réalisateur bien, reçoit des prix et des palmes. Alors on reproche finalement au réalisateur suédois de ne pas faire preuve de réelle subversion, d'être un peu trop poli dans sa critique. Alors c'est sûrement vrai, mais ça n'enlève pourtant pas grand-chose à la valeur de son œuvre. A noter qu'à ce jour, 9 metteurs en scène ont réussi à obtenir à deux reprises la Palme d'Or. Il y a Coppola, Bill August, Emir Kusturica, Shohei Imamura, les frères Dardenne, Michael Haneke, Ken Loach et donc Ruben Östlund. Voilà. Sans filtre est en salle depuis le 28 septembre et ça nous donne l'occasion de jouer un blind test autour des Palmes d'Or à Cannes.
Cinérama.
Il est votre sac.
Interview. Chronique, blind test et tout le reste.
Est-ce que je suis clair ?
On rappelle, le principe du blind test, ce sont 5 extraits à écouter et il faut deviner donc un titre de film qui a remporté une palme d'or à Cannes.
Da ist niemand mehr hier, sie läuten umsonst.
Je ne comprends pas l'allemand.
Ah, vous comprenez pas ? Oui. Étranger. Sie kommen um 10 Minuten zu spät. 10 Minuten trop tard.
Déjà parti.
Qui donc?
Ses amis. Ils sont venus ici et on le fait, cercueil.
Qu'est-ce que vous dites?
Le cercueil de Monsieur Lime. Un accident, lui renversé par voiture. Et dans un peu, juste dans la rue, devant la maison, tué tout de suite, immédiatement. Il est déjà au ciel ou en enfer.
Alors c'est trouvé.
Et c'est le troisième homme de Carol Reed, film de il l'a eu en 1949.
Oui, tout à fait, film avec Orson Welles. Les années précédentes, il y avait eu plusieurs films qui avaient été primés. Et ce film a recueilli quand même 5,7 millions d'entrées. Bon, c'est un vieux film, hein. Il a fini par accumuler...
Mais un classique intemporel.
Oui, tout à fait. Deuxième extrait.
Si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais d'autre? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Avoir un copain pendant des mois. Oh, et puis c'est la même chose, à force d'être copain, on devient copain. Je m'envoie un télégramme, je vous aime. J'ai aucune psychologie féminine.
Trouvé, Manu.
C'est un homme et une femme. C'est vrai qu'on a eu du mal à reconnaître la voix de Trintignant, sur le coup.
Bah oui, qui marmonne un peu. Bah oui, il marmonne.
Une voix plus grave, voilà. En fait.
Film de Claude Lelouch avec Anouk Aimé et donc Jean-Louis Trintignant. Palme d'or 1966, ex-aequo avec Ces messieurs dames de Pietro Germi. 4,2 millions d'entrées en France pour ce film. Allez, celui-ci, je l'adore.
Je trouve qu'on surestime beaucoup le sexe. Je crois que pour la plupart, les gens lui prêtent une importance exagérée. Et je crois fausse l'affirmation que les femmes éprouvent le même désir que les hommes. Je pense aussi que les femmes en ont autant envie, mais pas pour les mêmes raisons qu'eux. Et... je me perds un peu. J'espère que vous me comprenez.
Oui. Tenez, ça me rappelle un truc que j'ai lu. On prétend que les hommes... apprennent à aimer la personne qui les attire. Alors que les femmes, elles, sont de plus en plus attirées vers la personne qu'elles aiment.
Trouvé.
C'est Sexe, mensonge et vidéo de Steven Soderbergh. Et si je ne me trompe pas, c'est son premier
film.
C'est réalisé à 26 ans.
Oui. Et donc Palme d'Or et prix d'interprétation pour James Spader aussi en 1989. Et Steven Soderbergh devient le deuxième plus jeune réalisateur après Louis Malle à recevoir la Palme d'Or. Voilà. Il était effectivement très jeune et après, bien, il a fait quasiment un film par an. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui tourne énormément, même si à un moment il a dit qu'il s'arrêterait. Finalement, il a repris la caméra et c'est reparti. 1,4 million d'entrées pour ce film Sexe, mensonge et vidéo. Quatrième extrait de ce blind test, il faut trouver une palme d'or.
Ce garçon avait surpris un individu quelconque qui était en train de se nuire en abusant des nerfs les plus sensibles de son corps, là même où la loi divine a érigé des barrières sacrées. Le jeune garçon a ensuite imité ce geste et il n'a jamais pu arrêter de le faire. Il a si affreusement détraqué tous les nerfs de son corps qu'il a fini par en mourir. Je veux t'aider, mon fils. Crois-moi, je t'aime de tout mon cœur. Sois sincère, Martin. Pourquoi as-tu rougi et commencé à t'agiter en écoutant l'histoire de ce garçon?
Trouvé.
C'est le Ruban Blanc.
Oui, film de Michael Haneke, Palme d'Or 2009 au Festival de Cannes, film qui nous plonge dans un village de l'Allemagne du Nord, peu avant la Première Guerre mondiale. Il faut savoir que là, il était question dans cette séquence de la masturbation. 649 000 entrées en France. Il a eu une nouvelle Palme d'Or pour Amour en 2012. Donc il fait partie bien de ces réalisateurs qui ont obtenu deux palmes d'or. Il a 8 films en sélection officielle. Finalement, c'est tous ses films depuis Funny Game. Voilà. Donc il est aussi, lui, très apprécié du Festival de Cannes, Michael Haneke. Dernier extrait de ce blind test.
De quel droit interférez-vous avec une décision de justice?
Et commencez d'abord par vous calmer.
Réponds à la question, de quel droit?
C'est à vous de répondre. Vous voulez nous mettre à dos tous les commerçants et les hommes d'affaires de la région avec de tels jugements?
Tu entraves le cours de la justice avec de tels actes, Eddie.
Vous n'avez qu'à ainsi me mettre en prison. Qui fera la guerre alors, vous?
Ce que M. Sweeney a fait à Mme Rafferty est inqualifiable. Vous ne pouvez pas le cautionner.
Vous avez raison, mais l'argent de cet homme nous permet d'acheter des armes. Que voulez-vous faire sans armes? Ce n'est pas ainsi qu'on mène une guerre. On ne se bat pas avec des discours.
Comment pourrons-nous garder la confiance du peuple si vous sapez les décisions de justice?
Nous garderons la confiance du peuple avec des armes à la main, parce que nous avons des hommes aux quatre coins de cette ville qui la défendent en ce moment même, et que nous avons prise aux Anglais par la force.
Et le tout premier jugement rendu par un tribunal indépendant, tu le bafoues en décidant d'aller régler ça au peuple.
Trouvé.
C'est Le Vent se lève de Ken Loach?
Oui. Film de 2006, donc Palme d'Or 2006, il a pour thème la guerre d'indépendance irlandaise et la guerre civile qui l'a suivi, 907 000 entrées en France. À noter que Ken Loach est le recordman des sélections au festival de Cannes pour un réalisateur. Il cumule 19 000 sélectionnés, dont 14 en compétition. Et il a eu une autre Palme d'Or en 2016 pour Moi, Daniel Blake. Mais si on met Ken Loach et puis Mikael Haneke qui ont fait énormément de films face au réalisateur suédois Ruben Östlund, eh bien Ruben Östlund est nettement plus performant parce qu'il a fait beaucoup moins de films pour obtenir ces deux palmes. Voilà.
À noter que c'est Le Vent se lève, c'est aussi le titre du tout dernier film de Miyazaki, autobiographique, et qui est un chef-d'œuvre absolu, je pense, d'animation.
Mais qui n'a pas eu de Palme d'Or.
Malheureusement.
Donc, voilà. Ainsi s'achève ce Blind Test. Quand il atteint les 20 000 spectateurs, c'est un exploit. Manu fait partie de ces fans de Hong Sang-soo qui sort juste sous vos yeux.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
Qu'est-ce que je peux bien raconter au bout de la 15e critique? Alors j'exagère peut-être, mais je pense que je ne suis pas loin d'un nouveau Hong Sang-soo à chacune de ses sorties dans Cinérama, depuis Un jour avec, Un jour sans, qui fut ma réconciliation avec le cinéaste que j'avais abandonné après Contes de cinéma, qui était sorti en 2005. Sinon, répéter inlassablement les mêmes évidences pour un auteur obsessionnel qui ressasse des thématiques identiques d'un film à l'autre. L'idée n'est pas de se renouveler, mais de creuser, de continuer à épurer, parfaire un cinéma très équilibré, équivoque et intime, sans parvenir à lasser ses admirateurs, alors peu nombreux, mais très fidèles. Après l'anecdotique introduction, en sorte de best-of pour Happy Fuse, laissant complètement à côté les non-initiés par une abstraction poussée jusqu'à l'absurde, Juste sous vos yeux apparaît comme une œuvre majeure et limpide dans la filmographie du Coréen, d'une ambition folle, alors qu'il n'a peut-être jamais été aussi loin dans le minimalisme pour ne toucher du doigt que l'essentiel. Alors tourné visiblement avec une équipe très réduite, le générique de fin dure entre 15 et 30 secondes, avec seulement 4 comédiens et quasiment aucun figurant, les lieux en extérieur étant étrangement déserts, Hong Sang-soo signe un grand film existentialiste hanté par la mort qui, au lieu de nous déprimer, parvient à apaiser, comme s'il arrivait, tel un alchimiste, à nous réconcilier avec la fin de vie. Il tend vers une forme d'art brut, tournant constamment le dos à une forme d'esthétique assez rassurante, préférant la frontalité d'une image vidéo à la joliesse d'un plan surcadré. Chose qu'il sait faire à la perfection, qu'il faisait beaucoup au début. Mais aujourd'hui, il n'en a plus besoin. Alors l'histoire, réduite à sa plus simple expression, reprend ses motifs habituels à travers un récit linéaire, là où le cinéaste nous avait quand même habitué à une narration gigogne avec des sautes de temps, des allers-retours entre passé et présent, perdant parfois le spectateur. Sang-ok est une femme dans la fleur de l'âge, pas loin de 60 ans, qui vient rendre visite à sa sœur. Actrice disparue des écrans depuis des années, elle a monté une boutique d'alcool aux États-Unis. Elle a rendez-vous avec un réalisateur connu qui veut lui proposer de jouer dans son prochain film. Alors là où les raisons de sa réticence à accepter cette aventure séduisante se devinent assez rapidement, même si, comme d'habitude chez le cinéaste, rien n'est clair, tout est sujet à multiples interprétations. Juste sous vos yeux, à beau être bavard, alors emporté par ses dialogues magnifiques, à la fois improvisés et très écrit, il y a toujours un mélange des deux. Ce que disent les personnages est finalement moins important que la façon dont ils s'expriment. L'expressivité des visages, les gestes furtifs révélateurs de secrets en disent beaucoup plus long que de longs discours. Hong Sang-soo nous invite à partager une expérience intime, saisissante, stimulant notre capacité d'observation au-delà des apparences. La très longue scène de repas entre le cinéaste et Sang-ok, couvrant quasiment la moitié du film, est d'une intensité surprenante, point d'orgue émotionnel, jusqu'à, évidemment, la fameuse révélation que les plus fins observateurs ou les habitués de son cinéma ne manqueront pas de deviner dès le prologue, qui ne cherche pas tellement à dissimuler cette surprise. Alors ce repas a fortement arrosé, ça c'est aussi une habitude, ne peut aussi faire oublier les rapports étranges et émouvants entre les deux sœurs dans le premier acte où les non-dits sont chargés d'affect, où la complicité et la duplicité se répondent. Le cinéaste essentialise finalement le moindre regard et mouvement. Il est rare de regarder un film qui fasse autant appel, alors non pas à la concentration, mais à notre attention, le film étant facile à suivre et compréhensif. Alors Hong Sang-soo se révèle un grand conteur où l'imaginaire tient une place primordiale. Le style, on va dire pseudo-naturaliste, voire réaliste, est un leurre. La mise en scène qui s'oppose à la technique n'exhibe jamais sa virtuosité. Pire, elle fait mine de jouer, non sans malice, la carte de l'amateurisme quand la caméra fixe se met à trembloter juste avant un zoom incongru. Alors cette forme nous oblige en revanche à décrypter toutes les infimes subtilités d'un dispositif limpide. Il n'enferme pas ses personnages dans un récit verrouillé où sa morale surplomberait ses personnages. Non, tout est libre, ouvert vers l'infini, à l'image de l'épilogue, surprenant, qui rend compte de l'absurdité de la situation, qui est à la fois très ironique et déchirant.
Juste sous vos yeux donc, Sang-Soo est en salle depuis le 21 septembre. C'est le film polémique de cette rentrée entre western urbain et tragédie en banlieue. Nous parlons très vite de Athéna, de Romain Gavras.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
This is Cinerama.
Vous ne m'êtes pas très sympathique.
Mon frère est décédé à 0h30 cette nuit. Pour la mémoire d'Idir, et les coupables seront traduits en justice. Je vous demanderai de rester calme.
C'est le nouveau film de Romain Gavras après le très réussi « Le monde est à toi ». Athéna raconte les émeutes dans une cité qui, suite au décès d'un jeune supposément tué par la police, va s'embraser dans tous les sens du terme. Au centre de ce film, construit sur d'impressionnants plans-séquences, une fratrie. Abdel, militaire, qui appelle à l'apaisement avant de basculer lui-même dans la violence. Karim, encore adolescent, qui veut venger son frère mort et dirige la mutinerie. Et Mokhtar, qui lui a depuis longtemps choisi la voie de l'illégalité en vendant de la drogue et des armes. Athéna emprunte les codes à deux genres cinématographiques extrêmement réglementés et le fait bien. Le film de guerre et la tragédie grecque.
Il est inadmissible d'imaginer que les policiers protègent leurs collègues et prétendent ne pas savoir qui a fait ça dans ce quartier d'Athéna où tout le monde se connaît.
Romain Gavras, que de trop nombreuses personnes adorent qualifier de fils d'eux, de réalisateur, de pub de luxe, de clip, comme si au passage l'équipe ne relevait jamais de l'art, Romain Gavras eh bien, s'avère surtout être l'un des réalisateurs français les plus ambitieux, les plus audacieux. Athéna est un film dont la virtuosité technique pousse à l'admiration, mais aussi à la critique, hein, voire à la polémique, visiblement. Le film est en ligne sur Netflix depuis quelques jours à peine, que les critiques vont bon train. On accuse l'histoire d'être simpliste et les effets visuels de masquer l'indigence du scénario. Mais Gavras a fait le choix de raconter la montée de la violence d'une façon aussi animale que spectaculaire et c'est totalement assumé. Il restera peu de survivants à la fin du film, mais le spectateur, lui, en aura pris plein la vue. Et à ce niveau-là, on ne peut détourner nos yeux de l'impressionnant dispositif de mise en scène. Ouda Benyamina a filmé la banlieue sur le mode du film noir dans Divine. Kechiche filmait la vie dans la banlieue dans l'esquive comme une comédie sociale. Et bien Romain Gavras, lui, s'il ne cherche pas spécialement à créer un discours, en appelle néanmoins à la révolte et à la violence qui sont présentes en chacun de nous. Et il filme la banlieue de façon épique, la révolte de façon noble, et c'est peut-être cela le plus digne dans sa mise en scène. Il y a bien un grand remplacement qui se joue avec Athéna, et ce n'est pas le délire paranoïaque et raciste de l'extrême droite. Non, le grand remplacement auquel on assiste, eh bien, c'est celui du cinéma par les plateformes, car voir Athéna, produit par Netflix, échouer très logiquement sur une plateforme de streaming et donc être voué à être vu sur un petit écran alors que sa mise en scène, sa photographie, ses spectaculaires images sont totalement pensées pour être vues sur grand écran, eh bien c'est sans doute cela la vraie tragédie.
Alors Marine a apprécié ce film, on l'a tous vu ici dans l'émission, il était disponible sur une plateforme aisément accessible, vous en avez pensé quoi ?
Je pense que c'est un film de plateforme, c'est un film de contenu et c'est exactement ce qu'il est, c'est-à-dire un clip d'une heure et demie qui n'est pas vraiment pertinent dans ce qu'il raconte, a un savoir-faire technique parfois époustouflant mais qui s'essouffle, donc je pense que la polémique va s'essouffler aussi parce que le film au final n'a pas grand-chose sur lequel se bâtir quoi.
Alors ramène-nous rapidement hein.
Oui, bah, je garde dire grand-chose de plus à part que bon, le film est techniquement, je dis bien techniquement bien fait, mais pour moi il n'est ni mis en scène ni écrit. J'ai l'impression de voir juste un réalisateur qui jouit finalement devant le spectacle de la révolte qu'il filme. Mais je vois pas grand-chose d'autre.
Et il y a aussi un scénario indigent qui effectivement oui, est caché
pas,
par cette
et pas de personnage aussi
hein, par ces images virevoltantes.
Donc voilà. On n'a même pas le temps de s'attacher à une seule figure dans le film.
Ouais, donc si vous voulez voir un grand film de siège, revoyez Assaut de Carpenter. Et si vous voulez voir un grand film de banlieue et d'action, revoyez Total Western d'Éric Rochand.
C'est la fin de cette émission.
Alors,
C'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Ça se termine toujours comme ça.
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
Guillaume, la semaine prochaine, tu auras deux films.
Oui, alors une suite, Hocus Pocus 2, aussi attendu que Crainte, et Novembre, le dernier film du réalisateur de Bac Nord.
Et toi ?
Un documentaire un peu expérimental qui sort, qui ne ressort pas, The Horse on Thames, autour de John Lennon en Espagne.
Et Marine aura Blonde et l'origine du mal à la semaine prochaine.